Famille, justice, enfance.
Bonjour et bienvenue dans le numéro 117 de Famille, justice, enfance sur RLP avec Stéphane. Aujourd'hui, nous aurons le plaisir de recevoir en invité principal Sébastien Dupont pour une série de 3 émissions. Sébastien Dupont, auteur chez RS, Flammarion et au PUF, Presse universitaire de France, auteur notamment des ouvrages « Le cycle de vie des familles contemporaines », « Seul parmi les autres, deux points, le sentiment de solitude chez l'enfant et l'adolescent, virgule, entre tradition et modernité, la thérapie familiale, errance et solitude chez les jeunes, l'autodestruction du mouvement psychanalytique, la famille aujourd'hui et accessoirement le management zen ». Sébastien Dupont est docteur en psychologie, thérapeute familial et conjugal, chargé d'enseignement à la faculté de psychologie de Strasbourg, formateur et superviseur. Il pratique la thérapie familiale dans le cadre du service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent des hôpitaux universitaire de Strasbourg et la thérapie de couple dans le cadre du réseau O2Pro. Et Sébastien Dupont coordonne également le diplôme universitaire de thérapie familiale de l'Université de Strasbourg. Nous verrons avec lui ce que le règne animal et la théorie de l'évolution nous apprennent sur l'implication des pères, l'histoire de la répartition des rôles entre père et mère, de la préhistoire à nos jours, la redécouverte de l'importance du père, l'impact du père sur le développement de l'enfant, les particularités de l'éducation paternelle, le père dans la dynamique familiale, après la séparation et le père face aux professionnels du champ psychomédico-social. Mais avant tout, ne bougez pas, nous avons les actualités avec une bien triste nouvelle malheureusement. Ne bougez pas, c'est juste après ça.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
Alors, Claude Néris de l'association SOS Exclusion Parentale, que vous avez entendu plusieurs fois sur cette antenne et que certains d'entre vous ont connu parce qu'il les a aidés, soutenus ou tout simplement parce qu'ils ont entendu parler. Claude, mon ami, est décédé le 18 septembre 2022 des suites d'une maladie qu'il n'a pas pu vaincre. Ancien responsable des médias de Centrafrique à l'époque Mubuntu, avant de rejoindre la France pour y faire une carrière de policier puis d'enseignant en droit, il était également l'auteur de l'ouvrage « Afrique, terre de haine ?». Son application associative dans les problématiques de défense des droits parentaux aura marqué cette cause durant ces 10 dernières années avec des réunions, du lobbying à l'Assemblée nationale, à l'Élysée, des essais de projets de loi et autres. C'est un environnement qui, lui aussi, a fait que la vie l'a marqué et qu'il a tenté de rendre le monde meilleur. Au revoir, mon ami, et merci de tout ce que tu as fait ici pour nous. Nous ferons une émission spéciale dédicacée ces prochaines semaines. Au revoir.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
RLP 102.3, aujourd'hui avec Sébastien Dupont. Sébastien Dupont est docteur en psychologie, thérapeute familial et conjugal, chargé d'enseignement à la faculté de psychologie de Strasbourg. Il pratique la thérapie familiale, du service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, et la thérapie de couple. Il coordonne également le diplôme universitaire de thérapie familiale. Alors, Monsieur Dupont est également un auteur qui nous a offert le cycle de vie des familles contemporaines en 2022. C'est de manière assez récente, seul parmi les autres, et qui a également été co-auteur d'un certain nombre d'ouvrages. Monsieur Dupont, bonjour, merci d'être avec nous, vous allez bien ?
Très bien, merci, bonjour à vous et merci pour votre invitation.
Est-ce que cette présentation vous convient ? Est-ce que vous voulez en rajouter ? Je sais que j'ai oublié plein d'ouvrages que vous avez fait chez RS et ailleurs.
Oui, j'ai en effet écrit un ouvrage sur la famille qui s'intitule « La famille aujourd'hui entre tradition et modernité ». Un ouvrage dans lequel j'ai essayé de joindre les différentes disciplines des sciences humaines, psychologie, sociologie, histoire, anthropologie. Car comme le disait Marcel Mauss, la famille est un fait social total qui inclut toutes les dimensions de la réalité humaine et on ne peut pas séparer en fait artificiellement les dimensions de la vie familiale. Je vous remercie d'avoir évoqué ma casquette de thérapeute familiale à laquelle je tiens beaucoup, puisqu'en effet, je pratique comme psychologue, comme psychothérapeute, mais avec une approche assez spécifique, qui est la thérapie familiale, qui n'est peut-être pas l'approche la plus connue en France. Elle l'est plus dans d'autres pays, y compris très proches de nous. C'est une approche qui consiste à recevoir les membres de la famille ensemble, les parents, les frères et sœurs, parfois les grands-parents, parfois des oncles et tantes. Enfin, c'est très ouvert, parrain, marraine, travailler davantage sur les relations affectives, les relations dans la famille, plutôt que sur l'individu pris isolément. Et bien sûr, cette pratique de la thérapie familiale m'a aidé à observer les places dans la famille, le rôle du père. Il est souvent très apprécié d'ailleurs par les pères qu'on les invite, qu'on leur propose de participer à ces entretiens familiaux. Non pas seulement pour entendre leur voix, comme on écoute la voix de chaque membre de la famille, mais aussi pour travailler avec eux sur leur place, leur rôle dans cette dynamique globale qu'est le système familial, que les parents soient ensemble ou séparés d'ailleurs.
D'accord, donc vous exercez après un doctorat de psychologie, si j'ai bien compris, vous exercez auprès de parents, de familles qui viennent vous voir de manière volontaire.
C'est ça, alors ils sont en général orientés par d'autres professionnels, mais c'est toujours de manière volontaire, ce ne sont pas des soins sous contrainte.
D'accord, vous n'êtes pas expert en tribunal, ce genre de choses.
Non, ouais, non,
vous avez
comme
un aperçu de la famille. Ok, je vois que vous avez écrit également beaucoup d'articles dans énormément de revues. Ça fait longtemps, vous êtes assez prolifique. Oui, la promotion du lien social, etc. Pourquoi avez-vous commencé comme ceci à écrire, à rédiger, à transmettre?
À vrai dire, depuis mes études, j'ai toujours souhaité mener de front une partie recherche, une partie clinique, parce que je me suis aperçu, bien sûr, que les deux se nourrissent mutuellement. En fait, plus on se documente, plus on affine son regard clinique, plus on voit des familles, des individus, des situations singulières, plus ça relativise, ça enrichit nos connaissances générales. Donc cette dynamique m'a toujours paru profitable. Et puis le domaine de la famille, de la parentalité, des relations parents-enfants est un domaine en essor dans lequel il y a encore beaucoup à faire, beaucoup à explorer et pour tout dire, beaucoup à faire en France où on n'est pas très avancé en fait dans les recherches sur la parenté, la parentalité et encore moins sur les recherches concernant la paternité, la relation père-enfant. On est malheureusement obligé de lire principalement en anglais, d'aller chercher des études faites dans d'autres pays pour avoir des informations vraiment intéressantes, vraiment innovantes sur ce qu'est l'implication du père dans la famille et dans le développement de l'enfant aujourd'hui.
Vous êtes papa vous-même ?
Oui, 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 papa de deux garçons.
Qui ont quel âge ?
Ils sont petits, qui ont 3 ans et 1 an et demi.
D'accord, très bien.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
Sébastien Dupont sur RLP, que nous allons interroger sur ce que le règne animal et la théorie de l'évolution nous apprennent sur l'implication des pères. Parce que les pères d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier, c'est notre grand credo, nous le disons régulièrement. Nos grands-parents ne se comportaient pas comme nous nous comportons nous aujourd'hui. Mais tout ceci remonte encore à beaucoup, 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 beaucoup plus loin.
Oui, tout à fait. En fait, c'est pas l'angle qu'on prend le plus souvent, mais dans les études académiques sur la parentalité, sur les comportements parentaux, on a l'habitude de plutôt comparer les comportements humains aux comportements des autres espèces animales et à retracer l'évolution des comportements parentaux humains dans l'histoire de l'évolution de l'espèce humaine. En fait, il faut éviter d'avoir un regard trop étroit où on compare, par exemple, les pères d'aujourd'hui aux mères d'aujourd'hui, où on compare les pères d'aujourd'hui aux pères de la génération ou de deux générations précédentes. C'est un angle de vue beaucoup trop étroit. Et en fait, si on considère le règne animal, on s'aperçoit que, d'abord, c'est trivial de le dire, mais dans la plupart des espèces animales sexuées, il n'y a aucun soin aux petits. Les petits naissent et se développent seuls. Certaines espèces d'animaux produisent une descendance très 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 nombreuse, peu survivent, mais les géniteurs ne donnent aucun soin aux petits. On peut prendre l'exemple des tortues ou de beaucoup d'autres espèces animales. Et bien sûr, les mammifères se distinguent, notamment par le fait que les génitrices femelles, en général, donnent des soins aux petits, même si c'est parfois pour une durée très courte. Mais ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que dans la très grande majorité des animaux mammifères, dont nous faisons bien sûr partie, seulement 5, dans la grande majorité, 95% des mammifères, le géniteur mâle ne donne aucun soin aux petits. En fait, on ne souligne pas assez souvent que l'espèce humaine, nous faisons partie des 5% des mammifères dans lesquels le géniteur mâle s'implique auprès des petits et que le géniteur mâle s'implique auprès des petits de manière très durable et très intense. En fait, on est plutôt une exception du règne animal. Et bien sûr, les spécialistes de l'évolution ont essayé de comprendre cette exception qui remonte, alors je sais que vous en avez déjà parlé dans d'autres émissions, mais qui remonte aux origines de notre espèce, Homo sapiens, et on sait que l'implication du père a coévolué avec d'autres aspects de notre espèce, bien comme qu'on appelle la néoténie, enfin le fait que le petit homme naît prématuré, disons, c'est-à-dire qu'il a besoin de lui donner beaucoup de soins pendant très longtemps pour qu'il devienne viable, qu'il accède à la puberté, qu'il puisse se reproduire lui-même, être autonome, etc. Et donc, dans notre espèce, cette dépendance prolongée des petits a fait en sorte que l'implication de la mère n'était plus suffisante et les pères se sont impliqués également. Cette implication des pères s'est renforcée, s'est transmise, etc. Et on sait que donc cette implication des pères associée au couple monogame, à la fidélité dans le couple monogame, date des chasseurs-cueilleurs du paléolithique. Et on parlera sans doute après de l'évolution de la répartition des rôles entre père et mère. Mais avant de dire que les pères s'occupent peu des enfants ou pas assez, au moins que les mères, notons avec les spécialistes de l'évolution que c'est plutôt une exception remarquable de notre espèce, notamment par rapport aux autres primates, qu'est l'implication des pères dans notre espèce.
Oui, donc l'être humain qui a gagné la course à l'évolution tout de même, hein, puis qui a certaines caractéristiques, la manière d'honorer ses morts, le fait de se projeter, de construire, de visualiser des chocs psychiques, où on n'a pas encore forcément trouvé de très grandes équivalences dans le règne animal. Effectivement, peut-être que sur la planète, nous nous comportons différemment des autres mammifères. C'est possible. Hein. Moi, c'est une conception qui ne me dérange absolument pas.
Tout à fait. Il y a un point d'éthologie animale qui, je pense, est intéressant pour notre discussion. En éthologie animale, on distingue les soins directs, les soins parentaux directs et les soins parentaux indirects. Donc, les soins directs, c'est bien sûr nourrir, couver, porter, etc., allaiter. Et les soins indirects, c'est par exemple la nidification, creuser un terrier, protéger les petits des prédateurs, pourvoir les ressources nécessaires, la chasse, etc. Ce sont les soins indirects. Et en fait, dans les 5% des mammifères qui s'impliquent, ou les géniteurs mâles s'impliquent auprès des petits, les géniteurs s'impliquent essentiellement dans des soins indirects. Mais ils sont néanmoins essentiels pour la survie des petits. Donc le lion va chasser les prédateurs qui s'approchent de ses petits. On ne dit pas assez souvent que le lion mâle garde les petits pendant que les lionnes chassent. Alors évidemment, un groupe d'animaux où il y a beaucoup de soins du géniteur mâle, ce sont les oiseaux. On sait que les mâles nourrissent beaucoup les petits, participent à la conception du nid, etc. Mais en tout cas, ce que je voudrais souligner, c'est que dans la plupart des espèces où les géniteurs mâles s'impliquent, c'est dans des soins indirects. Et on retrouve un peu la même distribution chez l'espèce humaine, c'est-à-dire que les mères s'impliquent davantage dans les soins directs et les pères dans des soins indirects. C'est ce qu'on appelait autrefois le père pourvoyeur. Pas seulement le chasseur, mais pourvoyeur de revenus, protecteur, qui en fait nourrit la mère pour qu'elle puisse allaiter les petits, protège la mère, etc., etc. Et en fait, je souligne ce point parce que à notre époque, on est davantage centré, lorsqu'on pense à la parentalité, aux soins directs. C'est à ça qu'on pense. Jouer avec l'enfant, le nourrir, être tendre avec lui, etc. On pense que c'est ça, la parentalité.
C'est peut-être aussi le fruit de l'évolution, la parentalité d'aujourd'hui. On va en parler juste après la pause et le jingle. La parentalité d'aujourd'hui n'est pas celle d'il y a plusieurs milliers d'années. Nous sommes allés sur la Lune et autres, notamment parce qu'il y a eu une transmission du savoir intergénérationnel, non pas seulement par la mère, mais aussi par le père. Et puis, on arrive à une société des loisirs où le père rentre plus dans la famille, peut-être comme il l'a été à certaines époques, hein, on va en discuter ensemble, mais la parentalité, effectivement, a beaucoup évolué durant l'histoire.
Bien sûr. Il faut quand même, je pense, garder à l'esprit l'importance des soins indirects, notamment concernant les pères. Par exemple, on sait que les pères, consciemment ou non, continue d'accorder une grande importance au rôle de pourvoyeur. Par exemple, on sait que la majorité des pères, au moment où ils deviennent pères, vont avoir tendance à se consacrer davantage à leur travail, à travailler plus, à chercher une promotion, à éventuellement, ce qu'on ne dit pas toujours, chercher un poste avec plus de responsabilités pour gagner plus, même si le poste ne les intéresse pas.
Oui, c'est génétique, la neuroscience l'a prouvé, ça, oui.
Voilà, c'est ça. Et je trouve que c'est important de souligner ça, l'importance des soins directs. D'abord parce que les sociologues nous montrent que c'est très important ces soins directs, c'est-à-dire que les revenus qu'apporte le père, ben ça a quand même un effet très important sur la trajectoire des enfants en termes d'études et autres. C'est pas accessoire. Et puis tout simplement parce que encore aujourd'hui, même si les choses évoluent, on sait par exemple par de nombreuses études que dans les critères qu'ont la majorité des femmes pour choisir leur partenaire de long terme, le partenaire avec lequel fonder une famille, le critère du statut social, de l'ambition professionnelle, du courage au travail, etc., est essentiel. C'est-à-dire qu'en fait, tout ça, c'est quelque chose qui se fait de manière interactive. C'est-à-dire, oui, nous aspirons tous à des changements des rôles, mais nous ne savons pas toujours que nous avons dans nos cerveaux des résidus de millions d'années d'évolution qui nous ont conditionnés, notamment là, qui ont conditionné les femmes à être attirées davantage par des hommes industrieux, comme on dit en anglais, c'est-à-dire qui travaillent beaucoup, qui sont ambitieux, etc., plus que par des hommes plus centrés sur la vie familiale, les loisirs, qui veulent travailler à mi-temps, etc. Alors que, en fait, rationnellement, ces hommes-là seraient souvent très utiles dans leur vie parce qu'ils leur permettraient un meilleur équilibre entre vie domestique et vie professionnelle, notamment pour les femmes qui souhaiteraient s'impliquer davantage dans leur carrière.
Je vous entends.
Ce sont des phénomènes qui s'entretiennent et tout le monde y participe.
Je vous entends. Certains de vos collègues, plusieurs, m'ont confirmé ce point. On le retrouve aussi dans les ouvrages de Winnicott qui ont parfois été mal traduits mais qui ont abordé ceci. Mais il y a une certaine incompréhension autour de cela qui font que ce que vous venez de dire, qui spécifie l'époque des besoins biologiques et de vulnérabilité de l'enfant, si vous voulez, après, par extension, les gens ont l'impression que ça continue durant le reste de le développement de l'enfant. Or, il m'a semblé comprendre, en interrogeant un certain nombre de monde, que le père était surtout un pourvoyeur et un protecteur, quand la mère était en position de vulnérabilité, que le petit avait encore des besoins biologiques, mais une fois cette étape-là passée, il n'y avait absolument aucun problème à partager les tâches familiales, si vous voulez. Ces rôles, surtout avec l'évolution humaine, où nous ne sommes plus des animaux, hein, où on maîtrise nos pulsions animales, même si elles viennent, elles sont présentes en arrière-plan depuis un certain temps, expliquent les comportements d'aujourd'hui qui sont différents de ceux des 2500 ans. C'est-à-dire qu'en fait, le père uniquement pourvoyeur et la mère qui élève nous renvoie à un schéma qui aujourd'hui me semble dépassé, et que beaucoup de gens disent dépassé, une fois que l'enfant n'est plus dans les besoins fondamentaux et biologiques.
Alors là, vous parlez donc de l'évolution, en fait, de la répartition des rôles. Ce que je trouverais intéressant à souligner, c'est que nous avons tendance à avoir de l'histoire de l'implication du père dans la famille, une image d'une histoire linéaire, comme ça, allant d'un père plus distant,
uniquement pourvoyeur, voire chasseur. Non, bien sûr.
Voilà. Et surtout, c'est pas linéaire. Et ce qui est intéressant, c'est de considérer, c'est que lorsqu'on lit, par exemple, les paléo-anthropologues, je sais que vous l'avez déjà évoqué dans d'autres émissions, on s'aperçoit que
de la vie, notamment ici l'an dernier. Ouais.
Voilà, on s'aperçoit que les chasseurs-cueilleurs du paléolithique avaient sans doute, on a un assez haut niveau de certitude là-dessus, une répartition des rôles très peu genrée. Bien sûr, il y avait certains rôles qui n'étaient pas partagés. L'allaitement avait beaucoup d'importance d'un côté pour les mères, la chasse de l'autre pour les pères. Mais pour le reste, on était dans une entraide guidée avant tout par la nécessité de la survie, tout simplement. Ensuite, et donc c'est important parce que le paléolithique, c'est la plus longue période et de très loin d'évolution de notre espèce. C'est 3 millions d'années. Ensuite, le néolithique, l'invention de l'agriculture, cette période aurait quant à elle ouvert à une plus grande répartition des rôles, plus genrée déjà, avec le travail au champ d'un côté pour les hommes, des naissances plus rapprochées pour les femmes, donc un retrait dans le foyer plus important. Et puis surtout, ensuite, avec ce qu'on appelait l'histoire, l'Antiquité, et puis l'histoire successive à Jésus-Christ, le Moyen-Âge, etc. Une répartition des rôles, comme vous l'avez dit, qui va dépendre des cultures, des civilisations. On sait par exemple que le père est beaucoup moins impliqué dans les soins directs dans les sociétés qui valorisent la polygamie que dans les sociétés qui restent monogames. Mais surtout, il y a quelque chose que nous enseignent bien les historiens, c'est une certaine prudence, c'est-à-dire qu'il faut faire attention à ne pas y avoir de notre passé l'image qui est transmise par les seuls qui écrivent, c'est-à-dire les aristocrates, les nobles, les bourgeois, etc. Oui. On sait que ces couches supérieures de la société ont tendance à faire une répartition des rôles beaucoup plus contrastée que dans 98% de la population, qui est une population rurale, paysanne, ou comme je l'ai dit précédemment, on est centré sur la survie, l'entraide, chacun fait ce qu'il peut pour que la famille tienne et survive. On vit dans une grande proximité, les parents dorment avec les enfants, il n'y a pas d'école obligatoire, on est toute la journée ensemble, le père forme ses fils, ça rapproche énormément. Et en fait, ce que les historiens nous apprennent, c'est qu'il y avait au Moyen-Âge une forte proximité père-enfant, une forte proximité père-fils, et qu'en fait tout ça a changé avec la révolution industrielle, donc le 19e siècle, puis la première moitié du 20e siècle. Alors l'exode rural, les pères ont cherché le travail dans les grandes villes, et c'est à ce moment, en fait très récent dans l'histoire de l'humanité, que s'est fait cette division caricaturale, on pourrait dire, du travail entre monsieur gagne-pain et madame au foyer. Mais c'est très récent, et ce que nous apprennent les historiens, c'est que c'est plutôt une sorte d'exception dans l'histoire de l'humanité, exception qui est devenue intenable après la Seconde Guerre mondiale, où les femmes n'ont plus supporté cette répartition du rôle, qui n'avait aussi plus de sens parce que l'électroménager était arrivé, le lait maternisé était arrivé, les femmes avaient de moins en moins d'enfants, ça n'avait plus de sens en fait d'être au foyer. Mais il faudra souligner qu'au 19e siècle, par des mères, elles ne s'ennuyaient pas au foyer, très très loin de là. Et donc, ce que je voudrais souligner, c'est que la proximité père-enfant dont on parle aujourd'hui, ça n'est pas une nouveauté que le 20e siècle ou le 21e siècle a inventée. Par bien des aspects, c'est plutôt un retour à un état normal de notre espèce.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
Sébastien Dupont. Aujourd'hui, il semblerait que nous redécouvrions l'importance du père et qu'il y a notamment des recherches qui montrent que l'absence du père est un facteur de risque. Donc on va regarder cette redécouverte de l'importance du père aujourd'hui en essayant de bien concevoir que même si nos pulsions animales anciennes du paléolithique sont présentes, nous ne sommes pas des animaux, nous maîtrisons nos pulsions, nous ne tuons plus nos voisins quand nous ne sommes pas d'accord, nous essayons de ne plus battre nos enfants à la ceinture ou de leur taper dessus méchamment quand ils font des choses qui ne nous plaisent pas, donc nous n'avons pas les mêmes comportements que nos anciens, nous nous civilisons, nous évoluons, nous avons des processus d'élévation, donc on pourra regarder effectivement l'importance du rôle du père et son évolution dans ce processus.
Et puisqu'on parle là maintenant du père aujourd'hui, pour faire une transition, je dirais que on a parlé des soins directs et des soins indirects dans les espèces animales. On a des études très intéressantes sur les pères d'aujourd'hui, les pères en France, qui nous montrent que si on additionne le temps consacré par chaque parent aux soins directs, auprès des enfants, donc les tâches domestiques, tâches éducatives, avec le temps consacré à gagner des revenus pour la famille, eh bien, on aperçoit que l'implication des pères et des mères est équivalente. Vous savez, c'est les études emploi du temps, où on mesure le temps consacré chaque jour à quelle tâche. Au fond, la répartition du temps est équivalente à quelques minutes près. C'est assez extraordinaire, d'ailleurs. Ce qui veut dire que lorsqu'on dénonce, peut-être à juste titre, le fait que les pères sont en moyenne moins impliqués dans les tâches domestiques, les tâches éducatives, etc., il faudrait en même temps souligner que pendant qu'ils ne sont pas à ces tâches, ils sont à d'autres tâches non moins importantes pour les enfants, des tâches indirectes,
notamment le travail. Études aussi, elles sont assez contestées.
Oui, bien sûr, puisque certaines ne prennent pas en compte, par exemple, certaines ne prennent pas en compte le gros bricolage. Donc, un père qui construit une maison pour la famille, se sentant n'est parfois pas compté dans l'étude.
Oui, nous prétendons que les pères d'aujourd'hui, c'est un groupe en évolution. Il y a toujours une partie des parents qui n'assument pas. Il peut y avoir une partie de certains qui se comportent mal, mais il y a une partie relativement nouvelle qui cherche à s'impliquer. Donc, il y a une phase de transition où l'homme veut rentrer dans la famille pendant que madame rentre plus dans le professionnel, cette espèce de rééquilibrage ancien qu'on avait dit. Et c'est vrai que pour cette partie des pères qui veulent s'impliquer, il suffit d'aller dans la rue piétonne, nous voyons des papas qui poussent des poussettes, qui changent des couches, qui donnent le bain, c'est des choses qu'on voyait pas forcément auparavant. Puis je vais vous dire, faire une machine à laver, pourquoi pas, c'est pas embêtant du tout. Donc ces études-là, si vous voulez, malheureusement, sont peut-être trop globales et ne prennent pas en considération la transition du groupe sociologique qu'est le père d'aujourd'hui.
C'est ça. Et moi, je dirais que les pères ont besoin d'être reconnus dans ce qu'ils font en termes de soins directs et d'être reconnus dans ce qu'ils font en termes de soins indirects. Je peux en témoigner par mon expérience de thérapie familiale. J'étais frappée par le fait que je retrouvais chez beaucoup de pères un sentiment d'ingratitude, de manque de reconnaissance de leur contribution, voire de leur sacrifice qu'ils consentent pour leur famille. C'est-à-dire que certains acceptent des emplois très éprouvants qui impliquent des déplacements, des emplois qui ne leur plaisent pas, qui les éloignent de leur famille, etc. Ils ont parfois le sentiment que les professionnels et parfois leur propre famille, leur femme ou leur ex-femme, voient ça comme une sorte de démission du foyer, alors que ils le font à l'inverse pour le foyer. Et c'est important de reconnaître cette contribution qu'on n'a plus trop à l'esprit puisque on est, comme vous le dites un peu là, dans une culture qui valorise d'autres dimensions de la paternité. Après, il est vrai, en effet, vous l'avez mentionné en introduction, qu'on a redécouvert en fait l'importance du père pour la vie familiale et pour les enfants. Pendant longtemps, et la psychologie en a fait largement partie, pendant longtemps, plusieurs sciences humaines ne se sont pas intéressées du tout au père, notamment lorsqu'il s'agissait du développement de l'enfant, l'enfant dans la famille. Il a fallu attendre très tard pour avoir de vraies études sur le père. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les premières études qui ont émergé ont pris le problème un peu à l'envers, c'est-à-dire qu'ils ont étudié l'impact de l'absence du père, l'absence du père dans la vie de l'enfant, l'absence du père dans la famille. Et en effet, ce qu'on observe, bien sûr, ce sont des moyennes, c'est que l'absence du père a des effets statistiquement très significatifs. Donc, on observe une plus grande probabilité de difficultés d'échecs scolaires chez les enfants, plus tard de chômage chez les enfants futurs adultes, d'idées suicidaires et de tentatives de suicide, de toxicomanie, de violence, de délinquance. Chez les filles, on observe par exemple qu'elles ont des rapports sexuels plus précoces et plus fréquemment des grossesses précoces non désirées. On observe des choses qui devraient beaucoup nous intéresser aujourd'hui. On est très attentif au machisme, aux idées misogynes. Eh bien, on observe quelque chose qu'on rapporte peu, que les garçons qui grandissent sans père ont tendance à avoir des idées plus misogynes que les garçons qui grandissent avec leur père. On sait aussi que les garçons sont plus sensibles à l'absence de père que les filles pour leur développement. Et alors, si on prend les choses par un bout assez extrême, j'en conviens, on sait, par exemple aux États-Unis, que 90% des jeunes adultes sans domicile et 85% des jeunes adultes incarcérés ont grandi sans père. Détenus ont grandi sans
père. Dans des familles dysfonctionnantes, où il n'y avait pas le triptyque.
Alors, faut tout de suite, bien sûr, ajouter un bémol. Attention, ça veut dire que l'absence de père est un facteur de risque.
Oui, c'est pas objectif, c'est pas obligatoire. C'est pas parce qu'il n'y a pas de père qu'il finira en prison, bien sûr. Mais je comprends. Mais la probabilité, le risque est accentué.
Voilà, c'est ça. Barack Obama n'a à peu près pas connu son père. Ça ne l'a pas empêché de bien réussir dans la vie. Mais en effet, on sait notamment que dans les contextes les plus à risque, comme les milieux sociaux défavorisés, milieux sociaux qui cumulent plusieurs facteurs de risque, l'immigration, etc., la précarité, la présence ou l'absence du père apparaît là comme un facteur très important. Et lorsque le père est présent, c'est un facteur de protection décisif pour le parcours des enfants.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.